VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Conakry, 18h à Bangui, bienvenue à notre journal. Au Tchad, 6 candidats d'opposition à l'élection présidentielle du 10 avril 2016 exigent du Conseil constitutionnel l'invalidation des résultats publiés le 21 avril par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Les intéressés se sont exprimés sur la question lors d'un point de presse à midi ce vendredi à N'Djamena. Le point avec notre correspondant dans la capitale tchadienne, André Kodmajingar.
Après avoir relevé plusieurs irrégularités et en se fondant sur les réalités chiffrées des électeurs, ces candidats de l'opposition affirment qu'aucun candidat ne peut prétendre obtenir plus de 50%. Car pour eux, sur 9 régions du Sud qui regorgent un nombre important d'électeurs, le président candidat du MPS Idriss Déby Itno arrive en 4e position. Baymonk Ndoumbaye Brice est le candidat du mouvement des patriotes tchadiens pour la République.
Au moment de la proclamation des résultats provisoires du premier tour du suffrage exprimé des Tchadiens de l'intérieur et de la diaspora, la CENI a curieusement énoncé le nombre total des inscrits des décrets 257 et 258/2016, ce qui ne correspond malheureusement pas au total des chiffres des inscrits énumérés lors de la publication des résultats. Faisons l'hypothèse selon laquelle Idriss Déby Itno gagne 100% des voix à l'étranger et dans les 13 régions sur lesquelles il suppose avoir une mainmise, qui représente en tout 35,62% de l'électorat, avec un taux de participation de 100%, sans bulletin nul, il n'aura obtenu que 45,72%.
Saleh Kebzabo, chef de file de l'opposition, demande au juge du Conseil constitutionnel de dire le droit, car proclamer un candidat élu dans les circonstances confuses relève d'une imposture que le Conseil constitutionnel ne devrait cautionner.
C'est mieux pour moi d'en appeler au Conseil constitutionnel qu'il assume ses responsabilités nationales. Notre pays connaît un tournant et c'est à ce moment-là que les grands juges se font connaître. Un deuxième tour est incontournable. On va me faire parler avec un fusil dans ma tête. Je répéterai deuxième tour. Déby n'a pas gagné.
Kali Gatangote du parti Union des Forces démocratiques, parti républicain, quant à lui, s'interroge sur la forme de la démocratie au Tchad.
La démocratie au Tchad, qui est devenue une démocratie militarisée, nous pose la question des libertés démocratiques et de la liberté tout court dans notre pays. On en a marre de la guerre au Tchad. On en a marre des seigneurs de guerre. On en a marre des gens qui nous torturent par les armes et par des militaires. Pendant que nous y sommes, vous voyez tout ce qu'on nous fait comme tracasserie à Moundou, à Doba et à Abéché. Nos militants sont obligés de se cacher, sont obligés d'aller en exil. Sinon, certains se retrouvent dans les prisons de l'ANS. Chacun fabrique une prison privée pour pouvoir y mettre nos militants.
André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Le Soudan du Sud a finalement son gouvernement d'union nationale de transition, une étape cruciale du processus de paix censé mettre fin à la guerre civile qui a ravagé le pays. Claire Morin-Gibault.
C'est par un décret diffusé sur la radio gouvernementale ce matin que le gouvernement de transition a été entériné, 3 jours après le retour de l'ex-rebelle Riek Machar. Les 30 postes de ministres sont principalement partagés entre le camp du président et celui des ex-rebelles, une étape cruciale du processus de paix saluée par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui a toutefois, une fois encore, appelé les partis à mettre immédiatement un terme aux hostilités. Car malgré ces progrès, l'animosité entre les camps de messieurs Kir et Machar reste profonde, alors que leurs forces armées cohabitent dans la capitale. Parmi les nominations à noter, Kuol Maniag et David Deng Atorbey, fidèles du président Kir, conservent leur poste à la défense et aux finances, ministère qui aura la tâche ardue de reconstruire une économie en ruine après 2 ans de conflits meurtriers. Le portefeuille du pétrole, quasi unique source de revenus du pays, a lui été accordé à Dak Duop Bishok, un ancien rebelle. Lam Akol, un leader de l'opposition indépendant de la rébellion, devient ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, un poste clé alors que 5 millions de Sud-Soudanais ont besoin d'aide alimentaire et que certaines zones du pays sont au bord de la famine.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Afrique du Sud, la juge de la Haute Cour de Pretoria a déterré une affaire de corruption contre le président Jacob Zuma, pourtant retiré en 2009 par le parquet général pour vice de forme. L'abandon de plus de 700 charges pour fraude et racket notamment doit être revu. Ainsi en a décidé la juge Aubrey Ledouaba. Mais la saga judiciaire est probablement loin d'être terminée. Cette décision rendue par le tribunal de Pretoria est susceptible d'appel auprès de la Cour suprême. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint André Thomas Hausen, professeur auprès de l'Institut de droit international et comparé à l'UNISA.
Pour la réputation politique de Zuma, c'est encore une blessure, mais je dirais que la grande majorité des électeurs, du peuple, qui voient en Zuma un espèce d'héros populaire, un homme qui n'a jamais fréquenté une école, qui n'a jamais reçu une instruction formelle, et qui a fait une carrière exceptionnelle, ayant été président de la République pour les derniers 7 ans, que cet homme, évidemment, il a fait ennemi des élites, des gens riches et des gens éduqués. Et d'ailleurs, le chef de l'opposition, M. Maïman, est un peu le garçon de la fortune, quelqu'un qui n'a jamais manqué aucune bonne opportunité pour suivre des bonnes éducations et pour devenir un personnage très raffiné. Alors pour cette grande majorité des électeurs, je pense que ce jugement ne va pas les impressionner. Ça passera, ça fera des titres dans les journaux, mais il n'y aura pas beaucoup d'influence dans la préparation des élections municipales d'ici à quelques semaines.
Le professeur André Thomas Hausen joint à Pretoria en Afrique du Sud. Au Burkina Faso, la justice burkinabé va relancer les mandats d'arrêt internationaux contre l'ex-président Blaise Compaoré et l'actuel président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, après leur annulation hier par la Cour de cassation pour vice de forme. Les détails avec Bagassi, avec John Lyndon.
C'est le commissaire du gouvernement, à savoir le procureur militaire de Ouagadougou, qui a annoncé la nouvelle ce vendredi. Le colonel Norbert Koudougou a déclaré en substance « Les juges d'instruction vont reprendre les mandats. Nous avions introduit la requête en annulation pour corriger un vice de procédure. Cela étant fait, on ne voit pas d'empêchement à ce que ces mandats puissent être repris », a souligné le colonel Koudougou. Rappelons que la justice militaire burkinabé avait lancé le 4 décembre 2015 un mandat d'arrêt international contre l'ex-président Blaise Compaoré, réfugié en Côte d'Ivoire depuis sa chute du pouvoir le 31 octobre 2014. Monsieur Compaoré a été inculpé pour son implication présumée dans l'assassinat du président Thomas Sankara, tué le 15 octobre 1987 lors du coup d'État qu'il avait porté au pouvoir pour 27 ans. L'ex-président est poursuivi pour assassinat, attentat et recel de cadavres dans le cadre de l'enquête ouverte fin mars 2015 par les autorités de la transition à Ouagadougou. La justice militaire burkinabé a par ailleurs émis le 8 janvier un mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, pour son implication présumée dans le coup d'État manqué contre le gouvernement de transition en septembre 2015. Une décision basée sur l'enregistrement d'une conversation téléphonique supposée entre Guillaume Soro et Djibril Bassolé, ex-ministre des Affaires étrangères du Burkina. Les deux hommes ont catégoriquement nié avoir eu cette conversation, dénonçant une manipulation.
Conflit en Syrie maintenant. La trêve entre le régime du président Bachar al-Assad et les rebelles ne tient plus qu'à un fil. Les nouveaux bombardements de l'aviation gouvernementale aujourd'hui ont tué plus de 20 civils à Alep, la grande métropole du Nord. En une semaine, le bilan est de plus de 200 civils morts. Miley Segal.
Pour les habitants d'Alep, la trêve imposée le 27 février par les Russes et les Américains n'est plus qu'un lointain souvenir. Mercredi soir encore, un hôpital a été bombardé, bilan des dizaines de morts, un acte qualifié d'inexcusable par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. La prière du vendredi a même été suspendue pour la première fois dans les quartiers rebelles par peur de nouveaux bombardements. De nouvelles précautions prises au lendemain de la pire journée depuis la rupture du cessez-le-feu à Alep il y a une semaine. En une seule journée, 54 civils tués des deux côtés de la ville. C'est un mépris monstrueux pour les vies des civils par toutes les parties du conflit, a déclaré le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, tandis que l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, a appelé jeudi la Russie et les États-Unis, qui avaient mis en place la trêve le 27 février dernier, à prendre une initiative urgente. Un accord américano-russe prévoyant un arrêt des combats sur deux fronts en Syrie entrera donc en vigueur samedi à l'aube. Gros bémol, cet accord exclut la ville d'Alep, ce qui promet des heures encore difficiles pour les habitants.
Et pour terminer au Kenya, fin du sommet de Nanyuki sur le commerce de l'ivoire, le président Kenya Uhuru Kenyatta y a préconisé l'interdiction complète du commerce de l'ivoire afin de préserver les éléphants de l'extinction.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.